Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. On va passer deux heures ensemble. Pas mal de choses à vous résumer. Une grosse journée encore en actualité. Mais évidemment, avec au cœur de cette journée, un discours qui se termine à l'instant là, de François Legault, qui est sur ses derniers mots depuis 14 heures que ça dure. Il y a le lieutenant-gouverneur qui a dit ses petites remarques d'introduction avant. Je pense pas qu'on celle-là va passer à l'histoire.
Mais bonjour, quand même, salut, ça va?
Oui, ça va bien.
Un mot, quand, le lieutenant-gouverneur, on le voit pas souvent, mais c'est pas le discours le plus moi qui est allé me chercher là, c'est un discours
j'aime mieux ça comme ça.
Flat.
J'aime mieux ça comme ça.
Que ce soit comme un biscuit soda, pas de sel. Là.
Ben oui, parce que je me souviens d'une autre époque là, d'un lieutenant-gouverneur qui voulait jouer un rôle plus important dans la société là, puis qu'on était tous sur notre chaise puis avec des yeux en accent circonflexe pour point d'interrogation, pendant qu'est-ce qu'elle va dire.
C'est sûr
que
tu veux pas qu'il passe des points politiques.
Lui, je suis convaincu que tout le monde était assis bien calmement dans son siège, pas de peur qu'il fasse une gaffe. Il a remercié tout le monde, fait du bon travail, vous êtes gentil, vous êtes fin, vous êtes beau, travaillez fort
pour important.
Puis travaillez fort pour votre bon peuple, puis on passe la parole au premier ministre parce que par hasard, c'est lui qui a été élu pour gouverner.
Non, je comprends, mais un peu
de forme.
Ouais, un peu de forme. Un peu juste forme. Pour montrer qu'il y a une façon de dire que leur travail est important.
Mettons
d'aller
que tu as raison.
Un petit peu plus.
Mettons que tu as raison en théorie, je vais te dire qu'en pratique, là, après ce qu'on a eu à Ottawa comme à Québec, comme gouverneur général et comme lieutenant-gouverneur, qui se sont mis pieds d'un plat, qui ont gaspillé l'argent, qui ont fait des scandales, une personne discrète.
Oui,
et fort appréciée.
On dirait qu'à vouloir pas faire de vagues, il entre dans l'eau, là. Son pied doucement, puis tu l'entends même pas, un clafoutis, là. En tout cas, je faisais un peu curé, le curé de la paroisse qui est plus, tu sais, qui s'étend en semi. Mais bon,
compte tenu des expériences vécues, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui se disent c'est parfait de même. Une fois que c'est fini, on s'en souvient plus.
Ah oui, je me souviens même plus de ce qu'il dit, ça fait une heure à peine.
Il a dit merci à tout le monde, il était fort poli.
Oui.
Deux fois. Il aurait peut-être commis un impair là, en quittant. Il est allé dire, saluer Gabriel Nadeau-Dubois, le chef de la deuxième opposition, avant la chef de l'opposition officielle.
Oui, mais il faut dire qu'il était techniquement comme plus proche.
Ouais.
À quoi il s'est avancé, c'était le premier, là. Après ça, il est allé voir Mme Anglade, puis M. Arsenault.
Ceci dit, François Legault, dans son discours, il y avait des parties plus philosophiques, le changement, etc. Mais quand même, quand tu remets bout à bout là, sur une heure ce qu'il va y avoir annoncé, il y a toutes sortes d'annonces bien concrètes là, qui vont intéresser le public, des changements réels là, dans les mois à venir.
Mais c'est une mitraille là, d'annonces. Là. Il y en a, écoute, c'est une après l'autre sur à peu près tous les dossiers. François Legault qui a vraiment donné le ton, qui a fait sa longue liste là, des priorités de son gouvernement qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années aussi. En commençant par un mot sur évidemment, le virus, ce combat contre le virus. Et je vais vous faire entendre sur le retour à la normale, un peu, ou du moins la fin de l'urgence sanitaire. Il y a donné un peu plus de détails sur ce qu'on attend pour retirer l'urgence sanitaire. Plusieurs personnes ont l'impression que c'est fini, qu'on devrait lever tout ça. Dans le cas de M. Legault, il attend une chose, la vaccination des plus jeunes. On peut l'écouter là-dessus.
Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Évidemment, on n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2022.
Bon. Est-ce que c'est trop loin?
C'est parce que moi, je suis un peu... c'est vrai qu'il y a un côté philosophique qui m'énerve à maintenir l'urgence sanitaire, mais... Je veux dire, ça devient... Écoute, pour monsieur, madame, tout le monde, ça devient vraiment théorique. Tu sais, il y a un certain point, quand l'urgence sanitaire faisait que le gouvernement, par décret, fermait les restaurants, fermait...
Couvre-feu,
ça fait mal. Tu fais bien de le soulever, peut-être le cas extrême, le couvre-feu, une heure qu'il faut rentrer dans nos maisons... Mais là, pour vrai, on n'est plus là-dedans. Là. Je veux dire, moi, mettons, les contraintes de la pandémie dans ma vie présentement, là, faut que je porte le masque une fois de temps en temps, mais c'est vraiment une banalité. Sinon, quand je vais au restaurant, comme avant, je vais dans les mêmes restaurants comme avant, faut que je monte une petite affaire sur mon sel en rentrant. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec faut que tu sois rentré dans ta maison à, c'était quoi l'heure? C'était 8h, 9h, 9h, je pense.
Oui, mais il y a eu 8h.
Il y a eu 8h après ça. Non, mais tu sais quoi, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que l'urgence sanitaire. Bon, par exemple, la dernière utilisation récente qu'on en aurait eu, là, ça a été reporté, mais c'est pour forcer les travailleurs de la santé à être vaccinés. Là, ce qui m'apparaît plutôt logique, là, c'est demander que les soignants soient vaccinés. Donc, c'est pour ça que. Je pense que, sincèrement, dans le grand public, là, c'est un non-débat. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui disent eh, « Bon, Yann, que c'est
on
dur. »
On sent en urgence.
On sent l'urgence sanitaire. On... Bon, probablement que...
Parce qu'admettons qu'on retire l'urgence sanitaire demain, les autres règles restent en place.
Ouais.
Ça change pas grand-chose.
Fait que c'est un petit peu théorique, mais il faut l'élever un jour. Je reconnais, il faut l'élever un jour, mais c'est pas...
On disait d'ailleurs, et François Legault l'a dit, la bataille contre le virus n'est pas finie, il faut continuer à faire preuve de prudence et de vigilance, qui l'amenait, le premier grand sujet, c'est le réseau de la santé. Bon, on le comprend, là, que ça a été, ce sera le grand chantier, le grand défi des prochaines années.
Et là, il y en a une que j'avais pas vu venir, moi. Ben, en fait, j'aurais peut-être dû la voir venir, mais c'est un coup de jarnac aux médecins, là, je pense que... Tu sais, on pensait le problème des infirmières, recrutement de main-d'œuvre. On avait tout vu ça, là, qui est dans l'actualité des derniers jours. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de prise en charge, de plus en plus de patients. On avait fait un gros rattrapage au niveau des médecins de famille. Puis là, on perd tout le terrain qu'on avait repris. On est en train de glisser, là, les gens n'ont plus de médecins de famille. Et là, François Legault était. Celle-là arrivait du champ gauche, puis elle est arrivée raide, là.
Oui, parce qu'on disait, entre autres, que les médecins avaient été. En fait, que le système s'était adapté très vite à la pandémie, qu'on avait fait des pas de géant avec la télémédecine et compagnie, mais que là, il y avait besoin de la collaboration des médecins, parce que certains ne prennent pas en charge assez de patients. Et ça pose problème.
Mais dans son discours, là, c'est arrivé. Quand je dis que c'est arrivé du champ gauche, c'est que c'est arrivé raide, là. Nous, notre premier choix, c'est toujours de collaborer et de réussir à désentendre, mais on n'hésite pas. Puis là, c'était des menaces. Là, on n'hésitera pas en cours d'année si ça fonctionne pas, après à les obliger. Puis...
Les médecins ne vont peut-être pas. Là.
Non, surtout qu'ils
se sont parlé comme ça.
Mais surtout qu'ils se sont fait parler comme ça pendant quelques années, sous Gaétan Barrette, au début du mandat de François Legault. Puis là, depuis un an ou deux, c'était calmé avec les médecins. Là, tout à coup, on déterre la hache de guerre dans le discours inaugural aujourd'hui.
Il y a un mot qui est revenu, qui a été dit assez fortement par François Legault, c'est la décentralisation. Là, un problème qu'il voit comme majeur dans le système en ce moment. Vous voudrez amener une nouvelle vision un peu de la façon de faire dans notre système de santé. Je vous le fais entendre là-dessus.
Ça a été démontré qu'une gestion efficace, ça commence d'abord avec un mot très important, décentralisation. La responsabilité du ministère de la Santé, ça devrait être de fixer des objectifs de performance, et de suivre les résultats. Mais les personnes qui sont les mieux placées pour choisir les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs, ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Donc, le gouvernement va procéder à une vaste décentralisation du réseau de la santé vers les régions, vers les sous-régions du Québec.
Bon, souhaite aussi ne plus avoir besoin des agences privées pour, entre autres, le dossier des infirmières. Veut doter le réseau public de son propre système, de sa propre banque de candidatures de travailleurs pour aller dépanner
ça,
à gauche,
j'ai hâte
à droite.
De voir, là. Moi, je suis 100% pour arrêter. Les agences privées, les gens peuvent être surpris. Voyons, Dumont était plutôt pour ça, pour le privé en santé. Moi, demain matin, si tu me donnes le choix, je vais te dire, privatise des hôpitaux. Mets une gestion privée, là, puis dis, garde, là, toi, t'es responsable. Soigne le monde, tant de chirurgies par mois, tel prix, tu comprends? Gère tes coûts, gère tes... Mais les agences privées, c'est le pire de tous les mondes. C'est que tu fais des agences à l'intérieur d'un réseau public... que les mains attachées de toutes les manières. Tu dis, quand vous manquez vraiment de main-d'œuvre, il y a des agences privées qui vous fournissent de la main-d'œuvre plus chère, mais qui ne veut pas travailler la fin de semaine, qui ne veut pas travailler le soir, qui ne veut pas travailler. Ben, voyons.
Et souvent, c'est la même main-d'œuvre qu'il y avait avant.
Qui était
au public,
là avant.
Là,
ben oui,
et qu'on payait moins cher. Donc, oui, une situation que veut éviter François Legault.
Virage à soins à domicile aussi, là, qui est un élément important en santé, un grand virage vers les soins à domicile.
Sinon, à Raphaël, parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers, en technologie, on annonce un ministère de la cybersécurité et du numérique. On veut d'ailleurs augmenter l'accès Internet haute vitesse, avoir une citoyenneté numérique. On sait qu'avec nos numéros d'assurance sociale qui on circule à peu près partout sur le web, on aura besoin de se trouver cette identité numérique-là plus solide. On sait que le ministre Kerr travaille là-dessus avec ses équipes depuis assez longtemps. Alors, on verra les détails de ça plus tard. Le ministère de la cybersécurité, écoute, je trouve pas ça inintéressant parce que c'est un problème
qui est
majeur et qui va prendre de l'ampleur. Les garderies, écoute, on lance une vaste offensive pour aller ouvrir 37 000
places dans l'année.
Ouais, au cours,
énorme.
Ben, écoute,
énorme.
C'est tout un défi.
Mais ça veut dire qu'on va, à mon avis, ça veut dire qu'on va transformer, il l'a pas dit comme ça, mais des places en garderie privée non subventionnées. On va comme racheter les places. On va en faire des places subventionnées. C'est la seule façon, à mon avis, de créer rapidement des... Tu peux pas construire des garderies. Il faut que tu prennes des garderies en place, des garderies, exemple, privées, qui sont pas pleinement utilisées. Parce que là, à 40-50 piastres par jour, dans certains cas, ils ont des places libres. Tu vas dire, regarde, on vous prend vos places, puis on en fait des places subventionnées. Là. C'est ça qui va être la façon d'en créer rapidement.
L'emploi, un gros dossier, surtout la pénurie de main-d'œuvre, qui touche à peu près tous les domaines. Là, on a une série de mesures. Là. On veut aider les gens à se requalifier, à combler dans les prochains mois, des postes dans les services essentiels en priorité. On voudrait ajouter 100 000 travailleurs qualifiés dans ces différents domaines. On veut trouver un moyen pour encourager les 60-69 ans à continuer aussi pour éviter les retraites, anticiper ceux qui quittent un peu trop tôt. On veut aider les régions aussi où il manque d'emplois. On veut transférer des milliers d'emplois de la fonction publique en région. En environnement aussi, annonce concernant les hydrocarbures. Le gouvernement qui prend la décision de renoncer à extraire les hydrocarbures sur son territoire pour atteindre la carboneutralité en 2050. Faut comprendre, par contre, que renoncer à les extraire, consommer. Là. Alors, ça arrive du Moyen-Orient.
C'est que nous, on dit qu'on va continuer à consommer du pétrole, mais le nôtre, non, merci.
On y touche pas.
Non, mais le pétrole, désormais, va tout importer.
Oui. Je sais pas si le transporter par navire du Moyen-Orient.
C'est vraiment mieux.
C'est mieux, là, ou du Texas, mais c'est quand même ce qui a été dévoilé.
Mais en même temps, dans la mesure où on n'a pas développé les gaz de schiste, essentiellement, ce qu'on avait, c'est quelques projets en Gaspésie mineurs auxquels on croyait même plus. Fait que tu renonces à pas grand-chose.
Et sur l'économie, on veut travailler sur les produits québécois. Le gouvernement va lancer dans les prochains mois une campagne de promotion des produits faits au Québec. Le premier ministre qui veut réduire les importations de produits que le Québec est capable de fabriquer soi-même. Alors, ça fait partie de la liste d'annonces. Il y en a
puis
une autre.
À la fin du cours éthique et culture religieuse,
c'est terminé. Sera remplacé par un cours de citoyenneté. Là. Alors, ce sera probablement les mêmes professeurs qui vont tout simplement adapter le contenu. D'ailleurs, pour augmenter, toujours en éducation, là, pour augmenter le taux de diplomation chez les jeunes, on veut instaurer un programme de tutorat permanent, réinventer la formation professionnelle, la jumeler à des stages. On veut investir massivement en éducation. François Legault disait « L'éducation, c'est l'avenir de notre société. » On veut augmenter le taux de diplomation de 82 à 90 % chez les jeunes québécois. Fait quand même un gros menu, là.
Oui, c'est pour une année, pour un gouvernement qui irait juste une année dans son mandat, c'est un très, très gros menu. Mais moi, je retiens quand même de ça toute la notion de changement, entre autres dans le réseau de la santé, là, toute la notion de changement où ça, on l'a entendu plusieurs fois. C'est un système immense qui a brûlé, je sais pas combien de ministres. Alors, j'ai hâte de voir comment cette fois-ci on est vraiment convaincu de pouvoir implanter des grands changements. L'autre dossier qui a fait, là, juste en dehors des travaux du Salon Bleu, mais dans les corridors de l'Assemblée nationale, qui a fait jaser aujourd'hui, c'est la décision du Canadien de Montréal. En fait, ça fait deux jours là, que c'est dans l'actualité. La décision du Canadien de Montréal là, par rapport à la reconnaissance ou l'annonce avant chaque match là, que là, on joue le match sur un un territoire Mohawk.
Oui, en fait, rappeler que les Canadiens de Montréal disent, là, en début de match, souhaitent reconnaître la nation Mohawk pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non cédé où nous sommes réunis aujourd'hui, donc au site du Centre Bell. Ça a fait réagir aujourd'hui parce que les partis d'opposition ont révélé un peu leur position sur le sujet. Je voulais faire entendre un petit extrait de chacun. On entend Dominique Anglade qui, appuie le geste des Canadiens, la réaction de Paul Saint-Pierre-Plamondon du Parti québécois et de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. On peut les écouter en rafale.
Le geste est plus important que finalement la véracité des faits.
Non, il faut combiner les deux, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, il faut vérifier les faits. Mon point, c'est que c'est une initiative qui va dans le sens d'une réconciliation avec les peuples autochtones et je la salue en ce sens-là.
J'ai été sidéré d'entendre Dominique Anglade tantôt dire qu'il y a la vérité, mais il y a aussi le message, comme si la vérité était facultative.
Moi, je vais laisser les débats d'historiens aux historiens. Moi, je trouve ça malheureux que ce soit ces controverses-là qui occupent l'espace, plutôt que la conversation beaucoup plus fondamentale sur les droits ancestraux des peuples autochtones.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la question, parce que Dominique Anglade se disait qu'elle appuyait, mais on lui a demandé « Ouais, mais c'est pas vrai. » Elle dit « Ben là, il y aura des débats là-dessus. »
Non, mais elle a pris la même position que Valérie Plante. C'est que si l'intention est noble, que ce soit faux, tout ça est plus important. C'est comme ça procède d'une bonne intention. Ben, personnellement, je dirais à la limite, là, c'est généralement ce qu'on dit du principe du bon samaritain. Là, une personne sur le trottoir, ignorante, dépourvue, mais qui veut aider, qui veut rendre service, tu ne l'engueules pas, même si elle se trompe en essayant de rendre service. Mais est-ce que comme chef, maire d'une ville, chef d'un gouvernement, tu peux, comme ça, ou même pour un club de hockey comme le Canadien, mettre officiel une fausseté historique? C'est ça que je suis pas certain.
Mais est-ce qu'il y a moyen, assurément moyen, de trouver des initiatives pour appuyer les peuples autochtones en demeurant dans des choses qui sont factuelles? Là?
Ben, il doit bien y avoir des façons. Je peux pas croire. Vite, il nous reste une minute pour parler. Sonia Lebel fait un point de presse aujourd'hui, puis elle se retrouve dans trois nouvelles du jour.
Écoute, c'est un feu roulant. Tantôt, ne manquez pas ça dans le 24 minutes. Dans tout savoir en 24 minutes, on va faire le tour vraiment plus précisément. Là. Mais aujourd'hui,
quand Sonia Lebel fait un point de presse, les journalistes sont mieux de pas manquer ça.
Ben non, parce qu'elle a, pour son chapeau de ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne au sein du gouvernement, elle revenait sur le dossier du redécoupage électoral fédéral, là, demandant un peu statut particulier de pas que le Québec ne devrait pas perdre de pouvoir au niveau fédéral. Alors,
non, j'ai lu ça, elle a écrit une lettre, très bonne prise de position.
Ouais, on voit que Dominique Anglade aussi a envoyé une demande au fédéral. Donc, elle est dans ce dossier-là important du redécoupage de la carte électorale. Ensuite, elle est sur le dossier du... elle est présidente du Conseil du Trésor sur le dossier des éducatrices. Demandait aujourd'hui aux éducatrices qu'il y en ait davantage qui travaillent 5 jours parce que les parents, eux, travaillent 5 jours. On a besoin de garderies ouvertes 5 jours pour s'adapter à l'horaire des parents. Alors, elle est sortie là-dessus. Et également, sur l'UPAC. Alors, elle réagissait, donnant sa confiance à l'UPAC malgré les dernières histoires peu joyeuses.
Peu flatteuses.
L'arrêt des procédures judiciaires contre l'ex-maire de Terrebonne avec des critiques très, très difficiles de la juge. Elle en avait beaucoup sur son bureau dans les derniers jours à Mme Lebel et ça paraissait aujourd'hui.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
Cube Radio.
Alors, on revient sur les questions liées aux Premières Nations parce que l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador lance un appel à la communauté des affaires en disant « Le changement passe par votre engagement ». En fait, c'est un thème, un slogan. « Le changement passe par votre engagement ». On invite les entreprises québécoises à prendre davantage d'engagement envers les peuples autochtones. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Justin Picard, est avec nous. Bonjour, M. Picard.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce qu'il y a assez d'entreprises qui sont engagées? Je pense entre autres à des régions où les Premières Nations sont très présentes. Est-ce que les entreprises, naturellement, spontanément, sont engagées?
Ben, c'est des histoires qui sont un peu plus positives, qui ne font pas souvent les manchettes, mais il y a déjà des occasions d'affaires dans certaines régions du Québec. Et je pense qu'il y a moyen de multiplier ces démarches-là en prêchant par l'exemple. Et je pense que toutes les régions du Québec, ou presque, peuvent facilement être interpellées avec la participation notamment des chambres de commerce, des municipalités aussi. Le milieu municipal est fortement sollicité. Et ultimement, ce qu'on recherche, c'est vraiment la création de partenariats qui sont porteurs, hein, pour autant nos communautés que la majorité québécoise, finalement.
Mmh. Il y a quand même des disparités importantes là, liées à toutes sortes d'historiques là, qu'on pourrait raconter en prendrait une journée, là, mais je sais pas, mais les Innus, par exemple, à Ouachat-Maliotenam, à cette île, quand même, une partie de la communauté impliquée dans le monde des affaires. Il y a une partie de la vie économique de cette île qui est liée entre Ouachat-Maliotenam et les gens d'affaires de cette île. Bon, les CRI, depuis les ententes de la Baie James, les CRI ont leurs entreprises, des organisations, même une compagnie d'aviation, etc. Alors que, je sais pas, là, mettons, les Algonquins en Abitibi, c'est plus difficile. Il y a peu de richesses, une grande pauvreté, peu de participation économique, peu de partage des ressources. Il y a des disparités importantes, je me trompe?
Ben oui, il y a des disparités. Je pense que si c'est pas impossible d'équilibrer tout ça de façon à permettre qu'il y ait une plus grande association entre l'entrepreneuriat autochtone et l'entrepreneuriat québécois. Et c'est pour cela que nous, on organise un événement à la fin novembre à Montréal, mais qui va aussi être un tremplin pour des conférences un peu plus au niveau des régions, Gaspésie, Côte-Nord, et même des communautés qui sont peut-être un peu plus limitrophes à des grands centres urbains. Je pense à Québec notamment, Montréal aussi, avec les Abénakis sur la rive sud, à peu près une heure de Montréal. Donc, il y a des possibilités. Il s'agit de les explorer et de les exploiter si c'est possible. Donc, il faut vraiment mettre ça comme ordre du jour, si on veut, comme agenda là, pour l'entreprise, le Québec-in. Comme on la connaît, non? Et mettre finalement ces connaissances-là à profit.
Il fut une époque, là, je remonte 20 ans en arrière, où l'une des clés économiques là, qui semblait vraiment susciter l'espoir, autant bon dans des communautés autochtones que dans des régions où on voulait rétablir une sorte de paix ou un accord, on disait il faut partager les ressources naturelles. Bon, sur la Côte-Nord, par exemple, on parlait aux ressources forestières. Je sais que les négociations étaient ardues, là, on s'entendait pas nécessairement sur ce qu'on devait la part qui devait revenir à chacun, mais disons, on s'entendait sur le principe que si on développer les ressources, puis que tout le monde en profite, autant en termes de retombées, exemple, s'il y a des droits de coupe sur la forêt, on les partage, qu'en termes d'emplois, là, s'il y a des emplois qui sont créés, ben il y a des emplois pour les jeunes des communautés autochtones qui ont besoin de travail, etc. Est-ce que ça a été abandonné? Est-ce qu'on est encore au travail là-dessus? Il me semble que c'est moins dans l'actualité aujourd'hui qu'à l'époque, par exemple, d'un Guy Chevrette, là, il y a 20 ans.
Ben écoutez, vous touchez à plusieurs points en même temps, M. Dumont, parce qu'il y a la réalité politique, évidemment, qui fait que certains processus, oui, traînent en longueur, hein, des années, des fois, pour certaines nations qui sont aux tables de négociations pour essayer d'arriver à des ententes pas similaires nécessairement à la paix des braves, mais à tout le moins dans l'esprit pour qu'il y ait une certaine certitude durable. Ceci étant, il en demeure pas moins qu'il y a quand même des opportunités qui se présentent à nous. Vous parlez de la création d'emplois. Bon, on a longtemps insisté que le Québec vit une pénurie de main-d'œuvre et nous, on a des populations qui sont très jeunes, qui demandent à être un peu plus formées et qui pourraient facilement combler ces lacunes-là. Ouais. Donc, il s'agit de voir un peu, d'être un peu, avoir un esprit innovatif et voir comment on peut faire contribuer notre communauté à l'économie québécoise, finalement.
Ouais. Oui, effectivement, des jeunes... J'avais eu mon baptême il y a, je sais pas comment ça fait de temps, 20 ans, alors que j'étais à Betsiamite, sur la Côte-Nord. Je sortais d'une réunion, une espèce de centre communautaire, à l'heure où les jeunes sortaient de l'école. J'ai dit, OK, ça, c'est un autre Québec. Ici, on était au Québec à ce moment-là dans les familles d'un enfant ou deux. J'ai dit, OK, ça, c'est une autre réalité. Il y a des jeunes.
On finit pas de grandir nos écoles, oui.
C'est ça. Monsieur Picard, il faut que je vous parle de l'initiative du Canadien là, qui fait réagir. D'abord, est-ce que c'est... Est-ce que c'est ce qui est demandé? Est-ce que c'est ce qu'on veut voir et entendre des territoires non cédés à la veille d'un match de hockey? Est-ce que c'est la voie de l'avenir, un pas dans la bonne direction, une distraction? Comment vous voyez ça?
Ben, il y a un côté très, très protocolaire à ça, hein, qui remonte presque au début des temps. Là, c'est des pratiques qui existaient chez nous. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse mettre ça à jour. Et sous le signe de la réconciliation, je sais que réconciliation, bon, c'est il y a à peu près autant de définitions que de personnes qui prononcent le mot. Mais ceci étant dit, je pense que c'est une question de respect. Et c'est à peu près ça que nos nations attendent ici.
Ouais. Par exemple, on va dire un territoire Mohawk non cédé, puis c'est même pas vrai. C'est même pas un territoire Mohawk.
Écoutez, les historiens se confondent là-dessus. Là. Et ce que je dis, moi, c'est que, OK, il y a la version de vos historiens, il y a la version des nôtres aussi. Et ultimement, ben, ce qui est mis au test également, ça, c'est vraiment le niveau de diplomatie, si on veut, là, entre nos nations elles-mêmes. Parce que c'est clair que, bon, il y a une présence Mohawk ici, à Montréal, présence Huron dans la région de la capitale, mais c'est des territoires qui ont quand même été foulés par d'autres nations. Et ça, on a nos propres gardiens du savoir, si on veut, là, qui ont également ces références-là. Et écoutez, c'est un peu le savoir traditionnel contre la science. Hein? C'est un peu à ça qu'on fait face aujourd'hui. Et il arrivera un jour où nos nations elles-mêmes pourront déterminer bon quelle est la meilleure formulation qui fait finalement un consensus et respecte tout le monde.
Puis en attendant, est-ce qu'on dit ça à tous les matchs au Centre Bell?
Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça fait si mal que ça? Écoutez, je sais que au Québec, le Québec, je dirais pas pour en vouloir aux Québécois, mais au niveau du gouvernement, ben c'est un gouvernement qui s'isole encore une fois. Il l'a fait déjà dans d'autres cas et qui ne procède pas à cette reconnaissance territoriale au même titre que le reste du pays le fait.
Parce que c'est complexe l'histoire. Là. Moi, comme Canadien français, la France a signé une reddition avec les Britanniques après les plaines d'Abraham. Mais moi, mes ancêtres là, qui étaient des fermiers, c'est la France qui a signé. Ils n'ont pas cédé le territoire aux Anglais, qui est devenu ensuite la Confédération. Comment est-ce que je veux dire? Là? Puis il y a eu la déportation des Acadiens, qui était une affaire épouvantable, des francophones qui ont été expulsés, pire que tout le reste. Ben, pire, c'est toutes des horreurs qui sont arrivées dans l'histoire, là. Mais c'est complexe, hein?
Le titre dont on parle, M. Dumont, là, il est tout autre. Et ça a été confirmé, reconfirmé par les plus hauts tribunaux du pays. Donc, c'est très clair qu'il y a un titre autochtone qui reste très, très présent sur le territoire et sur ce fondement-là, on ne peut pas évidemment faire le procès de l'histoire, mais il y a quand même des aspects de l'histoire qui sont fondamentaux.
Est-ce que les Molson devraient donner... Ils ont construit 3 tours à condos là, qui doivent valoir je ne sais pas combien de centaines de millions. Est-ce qu'ils devraient donner une ristourne aux Mohawks? Parce que s'ils ne sont pas chez eux, ils sont sur ce territoire Mohawk.
Il ne faut pas pousser quand même l'exagération, là. Je pense qu'on parle d'un protocole qui était demandé ici, qui est tout à fait honorable. Et pourquoi ce ne serait pas possible?
Je comprends. La date à l'Assemblée nationale, on a l'impression que les partis sont divisés 50-50 là-dessus. On va voir encore comment tout ça va évoluer. Mais bon, le club d'hockey canadien, lui, a l'air déterminé à maintenir ça. Ghislain Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Au revoir, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec Labrador.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Alors, on revient sur le discours d'ouverture d'une nouvelle législature, d'une nouvelle session parlementaire. Ça a été présenté par le premier ministre, M. Legault, de 14 heures, un discours assez long, de 14h15 environ, jusqu'à presque 15h30. La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Est-ce qu'il y a trop de priorités au point de s'y perdre?
Non, pas du tout. En fait, c'est un discours assez, je dirais, assez ramassé, assez cohérent, puis assez axé sur les résultats qu'on a présentés tantôt. Puis en fait, les priorités qui étaient dans ce discours-là en étaient déjà auparavant. Mais il y a quelque chose de renouvelé, puis je dirais de très lucide par rapport au fait qu'on est en train de sortir d'une pandémie d'un an et demi qui veut pas, nous a forcé certains constats, nous a amené à devoir évoluer rapidement, je pense entre autres dans la sphère numérique, entre autres dans tout ce qui est achat local, dans tout ce qui est transformation alimentaire, etc. Donc bref, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, la main-d'œuvre aussi, évidemment, les emplois essentiels, les emplois dans le réseau de la santé, les emplois en service de garde, dans l'éducation, etc. Donc à la lumière de tout ça, on propose aux Québécois de se projeter dans l'avenir pour enfin sortir de ce mood-là, si vous me passez l'expression, de cette humeur-là de pandémie, bien qu'elle soit pas terminée. On sent que le pire est vraiment derrière nous, puis qu'une fois qu'on aura vacciné les 5 à 11 ans, on va pouvoir mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, puis se sortir de ça une fois pour toutes, puis relancer le Québec à la lumière des apprentissages et des leçons de la pandémie pour vraiment se projeter dans l'avenir, puis développer ce qu'on appelle la nouvelle économie, notamment.
La santé est un des gros sujets. Bon, il y avait des choses prévisibles. Évidemment, la main-d'œuvre, les infirmières, on se comprend que c'est des choses que vous n'avez pas le choix d'attaquer. Mais peut-être des gens qui vont être surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. On avait moins entendu parler des médecins ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, tout à coup, M. Legault est arrivé avec un avertissement, quasiment une menace là, pour les omnipraticiens quant à la prise en charge de patients qui veulent un médecin de famille.
Oui, bien ça, les médecins de famille, vous qui êtes connectés aussi là sur les gens, vous savez que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de citoyens. En tout cas, moi, je suis députée. Beaucoup d'appels que je reçois dans mon bureau de circonscription, puis c'est la même chose pour les autres députés.
Mais là, c'est parce qu'on progresse plus, là, on régresse. On est reparti on avait progressé pendant plusieurs années, puis là, avec la pandémie, on est reparti du mauvais bord.
Oui, bien, il y a quand même eu des gains de productivité dans le sens où la télémédecine, ça nous a permis quand même de faire des consultations puis tout ça, mais par rapport à la prise en charge, il y a le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille actuellement au moment où on se parle est supérieur que le nombre de Québécois qui avaient un médecin de famille à notre arrivée au pouvoir. Faut quand même le dire, mais il reste qu'il y a des gens qui en ont toujours pas. Et il y a eu depuis 3 ans, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est là maintenant, à peu près 3 ans pile, et donc depuis 3 ans qu'on est en discussion, entre autres avec les SMOQ puis tout ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Là, l'appel que lancé le premier ministre tout à l'heure, c'est à la fois aux autres professionnels, le Collège des médecins, les autres professionnels, FMOQ, FMSQ, et aux syndicats et aux employés, c'est de dire là, tout le monde, faut qu'on se mette ensemble parce qu'il faut que les Québécois aient accès à un médecin de famille et pour ça, il faut amener des changements. Entre autres dans la prise en charge. On n'aura pas le choix. Il faut faire quelque chose différemment. Tu peux pas toujours faire la même recette puis penser que ça va donner un résultat différent. Donc, il faut repenser ensemble la manière de prendre des patients. Il y a certains médecins en particulier là, qui prennent moins de patients en charge. On l'a vu dernièrement.
Mais c'est approche d'une menace, là. Dans le sens qu'il a dit, notre premier choix, c'est... Je me souviens pas des mots, là, mais notre premier choix, c'est la collaboration et une entente. Mais si on a besoin, on va prendre les grands moyens. Il a dit ça, là.
Bien, c'est un appel à l'action, tu sais, c'est un appel au ralliement, puis dans la pandémie, on a souvent eu notre premier ministre, puis on est tous avec lui là-dedans, puis faire des appels au ralliement en disant, regardez, là, il y a un problème de taille devant nous, la pandémie aura été évidemment le problème des problèmes de notre mandat, mais tu sais, il y a un problème de taille devant nous, on est dans un cul-de-sac là, si on fait rien, donc il va falloir qu'on se mette en action tout le monde, puis qu'on trouve une solution ensemble, qui va être à la satisfaction de toutes les parties. Puis, tu sais, nous, on compte aussi sur la bonne foi. Je pense que les médecins, je veux dire, il n'y a personne qui a envie d'avoir une mauvaise image ou qui est indifférent à ce problème-là. Là. Je pense qu'il doit avoir une voie de passage. Il faut juste la trouver. Mais effectivement, ça fait 3 ans qu'on discute, puis ça fait 3 ans que le problème n'est pas réglé. Donc, c'est de dire, là, il nous reste un an de mandat. Là, on aimerait ça que ça se règle.
Le chapitre
sur... Les Québécois ont besoin d'avoir un médecin. Ouais.
Le chapitre sur l'environnement, est-ce que vous êtes rendu un parti vert? Est-ce que vous êtes rallié aux arguments de Québec solidaire et compagnie? Entre autres, renoncer à extraire des hydrocarbures sur notre territoire, là. Dans mesure où on va continuer d'en consommer, pourquoi on s'engage à les importer à 100% puis à jamais en produire? Bon, interprétez pas ça comme quoi ma question était trop rough. Là. La communication a vraiment tombé au point mort soudainement. Est-ce qu'on peut... Oui, on a rétabli la communication, Mme Guilbeault.
Oui, excusez, la communication a coupé.
Oui, est-ce que vous aviez entendu la question? Je dois la répéter.
Oui, non, sur l'environnement, puis j'étais en train de dire qu'on a toujours été un parti fortement préoccupé par l'environnement. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi flamboyant que d'autres partis représentés à l'Assemblée nationale, parce que nous, c'est très incarné dans quelque chose de réaliste, puis quelque chose de conciliable avec le nécessaire développement économique. Il faut être capable de générer des revenus si on veut créer de la richesse, mais il faut le faire d'une manière verte. L'économie verte, c'est pas juste une ligne de presse, là. C'est une réelle volonté de notre part. Puis le premier ministre, tout à l'heure, en a parlé. On veut faire du Québec un pôle mondial de transport électrique, des autobus électriques, des tramways, des autos électriques. Vous savez que dans notre plan pour une économie verte, 2035, on ne vendra plus de voitures à essence. Je pense qu'il n'y a personne qui attendait la CAQ là, et pourtant, on l'a fait. Donc, un pôle de transport électrique, un pôle à filière batterie, un pôle d'hydrogène vert, vous l'avez dit, interdiction d'exploiter des hydrocarbures. Donc, t'sais, on fait des actions très, 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 très concrètes au-delà des discours. On a mis plus d'argent que n'importe quel gouvernement avant nous dans notre PEV, notre plan pour une économie verte. Donc, tu sais, des projets, on en a. Puis pensons juste à notre contrat avec New York, là. 20 millions dernièrement. 20 milliards, 20 millions.
En fait, 20 milliards, 20 milliards.
20 milliards, c'est ça.
Chez Hydro, on compte en milliards.
C'est ça, oui, c'est ça. Un million, c'est pas mal trop modeste. Donc, 20 milliards avec Hydro. On a des contrats avec le Massachusetts. Donc, les gens pouvaient être sceptiques au départ, il y a 3 ans, mais avec tout ce qu'on a fait en ce moment, forcé de constater qu'on aurait été sur le plan des actions et des résultats concrets, le gouvernement qui probablement va contribuer le plus à la réduction des gaz à effet de serre, non seulement ici, mais mondialement. Fait que ça mérite d'être reconnu. Puis là, on ajoute une couche aujourd'hui là, avec les hydrocarbures, puis c'est pas fini. Fait que tu sais, on est résolument axé vers le développement d'une économie qui va être verte, parce qu'il y a moyen de faire plus d'argent au Québec tout en se préoccupant de l'environnement. De toute façon, on n'a pas le choix de se préoccuper de l'environnement. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est assez déconnecté pour penser que c'est secondaire, la question environnementale. T'sais, il faut que ce soit en filigrane de tout ce qu'on fait comme action gouvernementale puis comme action de développement dans toutes nos régions partout. Puis inclure les MRC aussi. Il y avait un bout intéressant aujourd'hui sur les régions. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, mais je veux quand même le réitérer parce que t'sais, on parle beaucoup de développement économique, développement de nos régions, gouvernement des régions. Ben encore une fois, les MRC, on veut les embarquer, nous, dans tous ces plans-là qu'on a, que ce soit le développement de l'économie verte, les projets de transport électrique, puis tout ça, les zones d'innovation qui s'en viennent. L'innovation, ça va être quelque chose d'hyper important. Parce que ça aussi, on s'en sortira pas. Là, le numérique, la manière de repenser les modèles d'affaires, la manière de développer nos entreprises, la manière de substituer les problèmes de main-d'œuvre avec, entre autres, la productivité, la robotisation. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans super intéressantes, axées sur le futur, sur les technologies. Puis on veut que toutes nos régions puis toutes nos MRC embarquent dans ce mouvement-là, que chacun puisse avoir ses projets, que chaque région puisse avoir ses emplois à valeur ajoutée. Puis que finalement, ben, tout le monde bénéficie de la création de richesses, puis de l'amélioration de qualité de vie, Internet haute vitesse aussi qu'on est en train d'installer partout. Fait que c'est un ensemble de choses qui fait que les gens vont pouvoir être plus heureux et plus prospères partout au Québec.
Mme Guilbeault, comme ministre de la Sécurité publique, vous êtes responsable des corps policiers, dont l'UPAC. Est-ce que vous avez été mal à l'aise de ce qui s'est passé hier dans le dossier de Terrebonne? Non seulement toutes les accusations, tout le dossier qui tombe, mais des remontrances de la juge à l'endroit de l'UPAC.
Oui, bien, on a reçu le jugement. On est en train de l'analyser de notre côté, tant de notre côté chez nous. Moi, effectivement, je suis responsable de l'UPAC, mais il y a aussi le DPCP dont il est question dans ce jugement-là, qui est en train de l'analyser de son côté. Puis d'ailleurs, la réaction, tu sais, je vais être quand même circonspecte dans ma réaction, parce qu'on est en train de l'analyser là, du côté du DPCP pour voir, évaluer nos moyens là, dans peut-être faire une action devant la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas pris notre décision à cet égard, parce qu'évidemment, quand il y a un jugement, il y a toujours la possibilité de faire appel, puis c'est le DPCP qui fait cette analyse-là. Donc, pour cette partie-là, je vais rester très réservée. Mais il reste que sur l'UPAC comme tel, on est en train aussi de voir, tu sais, pour faire un, parce que là, je m'attends pas à ce que nos auditeurs aient lu un jugement de 87 pages, là, mais en gros, on remet en question un peu la façon dont l'enquête a été faite ou la façon dont les choses ont été faites.
Mais vous êtes consciente que pour le public, là, c'est la confiance générale dans l'UPAC. Vous, est-ce que vous gardez confiance dans la nouvelle administration?
Oui, ben on a nommé le nouveau commissaire de l'UPAC. Rappelez-vous, les quatre partis à l'Assemblée, c'est pas seulement le gouvernement qui l'a nommé, là, c'est tous les partis à l'Assemblée nationale. On a tous voté en faveur du nouveau commissaire de l'UPAC, M. Godreau. Et lui est en train de redresser cette organisation-là. Moi, parallèlement, j'ai fait adopter deux projets de loi aussi pour l'aider, pour que les choses aillent mieux à l'UPAC. Parce que, pour faire la distinction, il y a cette nouvelle-là aujourd'hui, ce jugement-là, mais toutes les autres vieilles enquêtes dont on a entendu parler, qui ont avorté, qui découragent les gens, c'était toutes des vieilles enquêtes initiées, pilotées par l'ancienne administration puis l'ancien commissaire de l'UPAC. Ça, c'est important quand même de faire la nuance. Là, on est dans une nouvelle administration. Ce jugement-là, effectivement, en partie, touche des choses qui sont faites avec la nouvelle administration. Donc, on est en train d'évaluer ça. On est en train d'évaluer les possibilités. C'est sûr que si on va en appel, puis que finalement, en appel, on nous dit que, tu sais, finalement, ça change le jugement et tout ça, ça va changer aussi les conclusions. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de se prononcer avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite du processus judiciaire. Mais oui, la nouvelle administration, moi, j'ai confiance. Pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, je rencontrais le commissaire de l'UPAC. Je fais toujours le tour annuellement de mes dirigeants d'organismes pour voir si tout va bien, sans mêler des enquêtes, bien sûr. Fait que ça va mieux, mais ce jugement-là, fait que moi non plus, quand je dis ça, écoutez, je pense que ça réjouit personne, mais on est en train de l'analyser finement d'un point de vue juridique pour voir si on va le porter en appel ou non, parce que le DPCP lui-même estimait que, selon eux, ça leur apparaissait pas fondé sur la preuve présentée. Les conclusions factuelles qui étaient dans le jugement, ça leur apparaissait pas fondé compte tenu de la preuve qui avait été déposée. Donc, on va attendre de voir les fruits de l'analyse du DPCP.
Madame Guilbeault, merci.
Merci à vous.
Au revoir. Et je vous partage tout de suite une nouvelle de dernière heure qui, triste nouvelle, concerne quelqu'un que j'aime bien. Notre collègue de TVA Sport, Mike Bossy, qui vient de s'exprimer dans une lettre qui est publiée. Bon, depuis plus de 6 ans, par le biais de TVA Sport, vous m'avez laissé entrer dans vos salons. J'ai eu le privilège de vous raconter le hockey comme je le comprends, comme je le connais. Vous avez été d'accord ou non avec moi, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans pour une pause obligée. Un arrêt nécessaire pendant lequel je devrais recevoir des traitements pour un cancer du poumon. Donc, pour une période indéterminée, là, Mike Bossy qui doit se retirer pour combattre la maladie, combattre un cancer du poumon. Donc, nos pensées, nos meilleurs voeux là, de prompt rétablissement et de courage avec lui. Mais donc, je voulais vous partager cette nouvelle. Alors, ça explique, sincèrement, j'avais pas l'explication. On ne voyait pas Mike Bossy depuis les quelques jours où la saison de hockey a repris, mais on sait maintenant pourquoi.
Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là.
La rencontre, la traverse, Dumont.
Emmanuel Latraverse nous joint. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Revenons sur ce long et quand même discours où il y avait beaucoup, beaucoup de points à amener. En fait, M. Legault.
7334 mots.
Oh! Oh! Et des priorités, il en a beaucoup. Est-ce que quand tu as 25-30 priorités, c'est encore des priorités, Emmanuel?
Ben, la bonne nouvelle, c'est que le monde qui n'a pas envie de le lire peut aller sur Facebook. M. Legault nous offre un résumé de 557 mots.
Ah!
Ah! Voilà, t'es pas obligé de l'écouter, vous voyez? C'est vrai que c'est un côté un peu buffet chinois, là. Puis finalement, là-dedans, il y a la base de son prochain programme électoral. Ce que c'est, il y a une partie de ça, c'est un exercice défensif. Il s'approprie des thèmes. C'est comme s'il dit, eux autres, ils sont à moi. Et là, le but, c'est d'empêcher les autres partis politiques d'en faire des grosses promesses puis des gros enjeux. Il n'y a plus personne qui peut dire, on devrait être un pôle d'hydrogène vert. Il va dire, haha, je l'ai dit dans mon discours d'ouverture. Alors, c'est purement stratégique. Moi, je pense qu'on lit à travers ce document-là que la priorité numéro un, c'est de refaire un brassage de structures dans le réseau de la santé, le décentraliser, le rendre plus efficace, plus humain, tout le reste.
ça, il n'a pas le choix que d'aller de l'avant avec ça. C'est comme si c'est le test de sa capacité comme gouvernement de tirer des leçons de la pandémie. Il y a les 37 000 places en garderie. On attend le projet de loi là, d'ici la fin de la semaine du ministre Mathieu Lacombe. Puis, il y a l'espèce de lancer des chantiers économiques qui, finalement, finissent par être assez intangibles et sont à très long terme. Moi, c'est comme ça que je vois c'est les vraies priorités qui sortent de ce discours-là.
Ouais. Quelques surprises quand même, des petites affaires, mais des affaires concrètes. On fait sauter le cours d'éducation à culture religieuse. Ça fait un bout de temps que ça traîne au Québec qu'on en parle. Les médecins omnipraticiens là, qui se font pogner dans le coin à dire non, là, vous allez prendre plus de patients. Les patients veulent un médecin de famille, vous allez accepter plus de patients, sinon on va vous pénaliser, là, on va vous sanctionner. Quelques éléments comme ça quand même que je retiens là, qui sont qui arrivent. Mais c'est la volonté de changement là, dans le système de santé, la décentralisation et tout ça. Ça, j'ai hâte de voir. Moi, je suis un grand sceptique là, de la capacité à changer ces systèmes-là. Puis je trouve qu'au contraire, là, les syndicats de l'immobilisme ont été plus forts que jamais. Là. S'il y a quelque chose qu'on a retenu depuis dans les derniers mois, depuis qu'on sort de la pandémie, c'est que les syndicats du secteur public puis les syndicats de l'immobilisme sont plus forts que jamais. Et que le gouvernement s'embarque dans une guerre là, pour les affronter. Là. Puis je sais de quoi je parle, là.
Mais c'est la raison pour laquelle M. Legault dit le danger qui nous guette maintenant, c'est la tentation de l'immobilisme, de la résignation et de l'inaction. Hein? Ouais. Il sait ce qui l'attend. Ce qu'il y a de aussi révélateur que ce qu'il y a dans le discours d'ouverture, c'est ce qu'il n'y est pas. Toute la question du logement n'est pas là. La crise du logement, l'accès à la propriété, et ça, moi, ça me surprend pour un gouvernement qui est tellement sensible aux priorités des électeurs. C'est un enjeu qui touche la classe moyenne, c'est un enjeu qui sort de Montréal, c'est un enjeu qui touche les gens, et c'est un enjeu où, peu importe les paliers de gouvernement, dans toutes les campagnes électorales, on en a entendu parler. Je peine à comprendre pour la raison pour laquelle il n'y a pas un mot là-dessus. Et on est encore, je pense qu'il faut le dire, dans la pensée magique des changements climatiques. On va faire des batteries, on va faire des véhicules verts, on va vendre notre hydroélectricité, puis bravo, on va avoir fait notre part.
Oui. Est-ce, ça, que, est-ce que d'attendre aussi plus de 50 minutes pour en parler, ça a donné des munitions à l'opposition?
Ma théorie là-dessus, c'est que M. Legault connaît son électorat. Son électorat veut juste savoir qu'il fait quelque chose. Et donc, il lui dit qu'il fait quelque chose, puis que stratégiquement, il pense que c'est assez. Est-ce que ça va être vrai dans un an, lors de la prochaine élection? Je suis pas certaine, mais je pense qu'il est là, le calcul. Que le monde, pour qui ça compte vraiment, puis que c'est la priorité numéro un, là, de toute façon, il vote pas pour la CAQ.
Merci, Emmanuel.
Au revoir.
À demain. Bye-bye.
Mario Dumont.
Il analyse l'actualité, il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
Alors, décès aujourd'hui d'un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de la Santé, ancien député de Charlebourg, Jean Rochon. Il a siégé à l'Assemblée nationale de 1994 à 2003 et donc a servi comme ministre d'abord sous Jacques Parizeau, mais ensuite sous le premier ministre Lucien Bouchard, qui est avec nous. Bonjour, M. Bouchard.
Oui, bonjour, M. Dumont.
Des souvenirs de Jean Rochon, un homme éminemment compétent, hein?
Oui, c'est ça. C'est un très grand ministre de la Santé qui a eu à gérer des dossiers extrêmement difficiles. Mais quand on examine bien son parcours, on voit qu'il laisse un bilan très, très plus qu'honorable, une grande contribution à la qualité de la santé publique en particulier. Et comme vous savez, l'assurance médicaments, c'est lui qui a fait ça. C'est vraiment lui. Ouais.
La loi sur le tabac.
Et puis, sa lutte contre le tabagisme, ce virage ambulatoire. Et puis, il a géré le réseau de la santé dans un moment très, très difficile où on avait la précarité des finances publiques qui nous a obligés à faire des coupes souvent radicales. Et lui, il a géré ça avec beaucoup, beaucoup d'à-propos. Il était très courageux. Parce que dans la vie publique, vous le savez, faire des coupes pour essayer de sauver des ressources pour les investir ailleurs, c'est pas très populaire, mais lui, il l'a fait. Et ça nous a permis en particulier d'investir dans le virage obligatoire. Ça nous a permis d'investir dans l'assurance médicaments. Et surtout, ça a dégagé des fonds pour permettre le financement des centres de la petite enfance, les garderies. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très, très important. C'était plus un grand gestionnaire, un grand commis de l'État, un grand commis politique qu'un politique, là. Vous savez, c'était quelqu'un...
Ouais, c'était pas un politicien. En chambre, il était pas très partisan. Il répondait aux questions d'une façon... En fait, je vais faire une farce plate, mais il répondait vraiment aux questions, là, d'une façon technique.
Oui.
Il était très, très respectueux des autres, des adversaires, de ses collègues. Un gentleman, hein?
Jamais, oui, j'avais raison. D'ailleurs, Mario, vous étiez l'un de ceux qui l'interrogeait aussi.
Oui.
Hein? Et puis, pas toujours avec...
Pas toujours en douceur.
Avec d'amabilité, oui. Ça, c'était votre rôle à l'opposition. Mais c'était un moment très difficile aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des moments faciles dans la santé au Québec? Il n'y en a jamais eu. Et lui, il a traversé une période très, très... L'implantation de l'assurance médicaments, ça n'a pas été facile. Là. C'est compliqué. Il a fallu prendre des décisions politiques très difficiles, financières aussi. Puis la lutte contre le tabac, vous savez, à l'époque, là, les fumeurs, là, c'était pas l'ami des fumeurs. Hein. Il était très engagé du côté de la santé publique. Je pense qu'il a été, est-ce que je me trompe, qu'il a été directeur de la faculté de médecine également à Laval.
Ouais, mais il a surtout été, quand M. Parizeau l'a recruté, moi je me souviens là, qu'il était candidat, un super candidat vedette là, en 94, à l'élection de 94, et je me souviens très bien qu'à l'époque, il arrivait de l'Organisation mondiale de la santé, il avait été, je pense, tour à tour conseiller spécial du président de l'OMS, puis ensuite il avait été en charge de la santé publique, mais à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Organisation mondiale de la santé.
Il était basé à Genève, il a joué un très très grand rôle, il était formé à l'Université Laval en plus, dans le domaine de la santé. Avant, il avait fait un cours de droit, il avait été avocat. Moi, je l'ai connu à ce moment-là, quand j'étais à la faculté de droit. Mais il était étudiant. Moi, j'étais étudiant avec lui. Lui, il était à ce moment-là encore étudiant. Il était étudiant en médecine, il avait déjà fait son droit. Puis il se destinait justement à la carrière qu'on connaît. Là. Mais c'est un grand monsieur, hein. C'est un homme éminent, un grand, grand serviteur de la collectivité québécoise et qui a joué un rôle majeur, mais déterminant dans la mise en place des grands réseaux de la santé. Le modernisme, il a réinventé. Évidemment, on aurait voulu pouvoir investir plus d'argent, ce qui était pas le cas à l'époque. Mais il a quand même réussi à mettre en place des réformes sociales, des réformes dans la qualité du réseau. Mais la reconnaissance n'était pas très contemporaine parce que où on avait beaucoup de problèmes dans les urgences. Vous vous rappelez, il y avait toujours un député qui se levait dans l'opposition puis qui disait Monsieur le Président. Je vais vous lire une lettre que j'ai reçue d'une de mes électrices hier, puis c'est toujours une histoire d'horreur d'attente dans les services d'urgence.
Ouais, ouais.
Mais ça n'a pas beaucoup changé, hein?
Non. Mais j'ai quand même parlé de reconnaissance qui n'est pas contemporaine. C'est peut-être une leçon politique. Parce que quand on regarde... Moi, je l'ai critiqué à l'époque. Là, puis là, je regarde 25 ans plus tard, un peu plus de 25 ans plus tard, c'est le virage ambulatoire, là. C'est aujourd'hui, dans le système de santé, si on n'avait pas pris ce virage-là d'éviter les hospitalisations, des chirurgies d'un jour, on pense que le système craque et qu'il craquerait 10 fois plus. Les CHSLD, c'est lui qui avait implanté quand même, ça a amené des fermetures de CHSLD pour des raisons financières, mais c'est quand même lui qui avait amené la mesure des heures soins et tout ça pour dire, ben, on peut pas garder le coût tellement élevé du soin en CHSLD. CLD, on peut pas garder des gens qui sont en relativement bas. Moi, à Rivière-du-Loup, je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient leur retour. Ils étaient en CHSLD, puis il y avait encore leur retour dans le cours. Donc, si ces changements-là n'avaient pas été faits il y a 25 ans, aujourd'hui, le système serait encore pire qu'il y ait.
Ben, il y a eu le courage de fermer des établissements. C'est pas rien. Hein. C'était très, très, très... Ah, c'était surtout du régime de M. Parizeau qui a commencé à faire ça. Puis je me souviens, moi, j'étais dans l'opposition à Ottawa. J'étais chef d'opposition à Ottawa. Puis je me souviens que quand on me disait qu'on fermait des établissements, j'avais eu des commentaires assez négatifs. Il m'avait appelé, on avait discuté, etc. Ça n'a pas été facile, la tâche qu'il a accepté de faire. Mais c'est des gens comme ça qui changent les choses, qui préparent l'avenir. Mais en effet, la reconnaissance n'est pas immédiate, hein, c'est sûr. Mais c'est un grand, grand monsieur, c'est un grand ministre, Jean Rochon. Ah oui.
Ben, toute sa famille, nos plus sincères condoléances à la famille de monsieur.
On pense à la famille, évidemment.
Ouais. M. Bouchard, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
à... Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres.
Jean-François, salut.
Hey, salut, Mario.
Moment, je pense, triste pour toute l'équipe de TVA Sport. Ce soir, les gens vont surveiller le match du Canadien, mais j'ai l'impression que les collègues de TVA Sport qui vont commenter le match, etc., vont avoir autre chose en tête.
Oui, clairement. Là, on a appris tout à l'heure par une lettre d'ailleurs qui a été publiée par Mike Bossy lui-même sur le site de TVA Sport que Mike Bossy, qu'on connaît bien, l'ancienne grande vedette de la Ligue nationale de hockey qui a endossé l'uniforme des Islanders pendant plusieurs années, prolifique marqueur, est atteint malheureusement d'un cancer du poumon. Et ce qu'il a écrit dans le fond, c'est qu'il va donner son 100%, là, c'est 1-0 pour le cancer, mais qu'il n'a pas l'intention de se laisser abattre, qu'il va se battre comme il l'a fait sur la patinoire, avec toute l'énergie qu'on lui connaît, avec toute la fougue qui lui permettait de marquer des buts. Donc ça fait partie de sa lettre aujourd'hui, et il expliquait là, dans le fond son absence à TVA Sport depuis quelques semaines.
Oui, qui n'avait jamais été, effectivement, là, qui n'avait jamais été vraiment expliqué. Moi-même, je m'étais posé la question, mais j'avais compris qu'il était toujours dans l'équipe, qu'il n'avait pas été... bon, des fois, il y a des changements, des gens change de réseau, mais dans son cas, c'était pas ça. Donc, c'était un peu... moi, c'était resté un peu mystérieux, mais là, on a compris que c'est un combat, c'est des raisons de santé qui sont en cause. Donc ça doit... Donc, pour lui, ça change la perspective du jour au lendemain. Hein. Tu te prépares à couvrir une autre saison de hockey, puis tout à coup, c'est
ta propre... tout devient secondaire, là. Je suis allé voir évidemment pour son âge, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le paysage, Mike Bossy, puis longtemps quand même qu'il a les cheveux blancs, donc j'ai été surpris, il a seulement 64 ans, Mike Bossy, donc évidemment on va lui souhaiter bonne chance, je pense que tous les Québécois sont derrière lui, on a eu plein de messages là, sur les différents médias sociaux de toute l'équipe de TVA Sport, tous les gens qui le côtoient au quotidien, c'est vraiment, moi là je ne l'ai pas côtoyé beaucoup dans le monde du sport, mais un peu dans le temps de Piment Fort. Je ne sais pas si tu te souviens que Mike, après sa carrière, a donné un peu dans l'humour. Et il était vraiment sympathique, vraiment gentil, très, très simple à côtoyer. Tu sais, moi, j'arrivais le ticu et c'était Mike Bossy quand même, mais il s'en faisait pas avec ça. Pour lui, il était sur une autre mission là, de l'humour, etc. Puis il était pas toujours là à nous rappeler que c'était Mike Bossy. Donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et ben, ça fait Mike Bossy, ça fait Guy Lafleur, hein, deux grands du hockey qui se battent avec le même cancer du poumon. Alors, on va souhaiter le meilleur pour les deux.
Et je me trompe pas en disant que les plus jeunes savent souvent pas à quel point Mike Bossy c'est une légende, là. Et quand tu vas voir ses statistiques, ça n'a aucun bon sens. Là.
En fait, quand Mike Bossy, quand il commente un match et qu'il parle d'un joueur qui rate un but, ou que le Canadien, pendant deux périodes, marque pas de but, ou pendant trois périodes, marque pas de but, puis tu dis, ouais, lui, il sait de quoi il parle quand il parle de marquer, de pas marquer, d'être marqueur, d'être pas marqueur. Lui, en comptait 60 et plus par année. Et quand il y avait un petit trou, c'est là que la rondelle allait.
Ah, lui, c'était un vrai de vrai marqueur. Là, c'est sûr que les époques ont changé. Là, les gardiens sont bien meilleurs, mais quand même, ses statistiques, c'est 573 buts en 752 parties. Fait que c'est quasiment un but par match. Là, on est à 0.750 là, t'sais, buts par match, et il a ajouté à ça 553 passes. Malheureusement, les blessures au dos sont venues le ralentir. Il faut dire qu'il s'est fait frapper. C'était la seule façon de le ralentir. Là. Les joueurs de l'autre équipe s'amusaient à le frapper, et ses problèmes au dos ont mis fin à sa carrière prématurément, parce que c'est un gars qui aurait marqué 6, 7, puis peut-être 800 buts dans la Ligue nationale de hockey. Là. Quand tu y penses, c'est 1100 points en 752 parties. C'était tout un phénomène.
Ben, on va lui souhaiter la meilleure des chances, croiser les doigts de le revoir le plus vite possible sur les ondes à commenter le hockey. Il nous reste une minute pour parler du match du Canadien ce soir. J'allais le dire en anglais, un must win, là, comment on dit en français?
Un match qu'on ne peut pas perdre.
Un match qu'on ne peut pas perdre, ouais. C'est tout ça? On est-tu rendu là déjà?
Ben, je pense que oui. Cette semaine, on le disait hier, ça prend au moins, faut jouer pour 500. Il y a des changements dans la formation ce soir, dont Mike Hoffman devrait jouer et Brooks aussi. Je dis devrait parce que, c'est ça, c'est le genre de cas, là, quand on vient d'une blessure puis tout ça, que si jamais dans la période
d'échauffement, ça se passe pas bien. Brooks, j'avais tellement hâte de le voir sur la glace. Je sais même pas son prénom.
Adam Brooks.
Adam, bon, tu vois, on en apprend.
Hey, j'ai lu aujourd'hui que ce gars-là a joué, c'est un joueur de centre, là, aujourd'hui, ce soir, sur notre troisième trio. Il a joué à l'aile avec les Leafs parce qu'il n'y a pas de place au centre. Il a pris un total de 18 mises en jeu, quelque chose comme ça, depuis son arrivée dans la Ligue nationale. D'après moi, c'est pas lui qu'on va envoyer pour les mises en jeu importantes. Mais disons qu'on va focusser sur Mike Hoffman qui va jouer sur le troisième trio avec Brooks.
On va surveiller ça ce soir. Hey, merci Jean-François, à demain.
Bye.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, discours qui était attendu de François Legault. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses qui sont faites dans ce... Des promesses qu'on avait entendues en 2018 aussi. Mais il y a des objectifs en environnement qu'on n'attendait pas, par exemple.
Oui, petite attaque contre les médecins aussi qu'on n'attendait pas contre les médecins qui prennent pas assez de patients, le cours d'éthique et culture religieuse qui tombe. Je nomme ça comme ça pour un peu confirmer qu'effectivement, là, ça va dans plusieurs directions, ça touche plusieurs sphères de la société, plus que je m'attendais, parce que initialement, on pensait plus à un discours qui allait recentrer l'action du gouvernement, alors que là, c'est comme si on redonne les détails de tout un programme dans tous les secteurs. Donc, est-ce que ça, on pourrait dire que c'est une faiblesse? Est-ce que vraiment on redonne au gouvernement là, les grosses priorités? Peut-être pas tant que ça. Plus un programme là, très, très diversifié, très large. Bon, il y a certainement des actions là-dedans qui sont... prenons le cas de l'environnement, effectivement. Là, on a quelques mesures. Pas assez pour l'opposition. La première critique de l'opposition est la même dans le cas des deux principaux partis d'opposition. C'est qu'on ne parle pas assez d'environnement. Puis c'est venu trop tard dans le discours. Mais... bon, pour moi, il reste que, c'est pour le public, je pense que le premier sujet où les gens vont être attentifs, c'est la santé. Et grosse décentralisation, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, une volonté de changer les choses en santé. Mais c'est un système très difficile à changer, des pouvoirs bureaucratiques énormes, des pouvoirs syndicaux ultra puissant. Tous ceux qui ont... Tu sais, je veux dire, à peu près tous les ministres de la Santé se sont fait bouffer par le système par le système.
Incroyable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça arrive au moment où on apprend le décès de Jean Rochon. On se souvient de la réforme Rochon qui avait voulu implanter, changer les façons de faire en santé. Mais ça fait 26 ans, Mario.
Et le système de santé... Oui, le système de santé était déjà en crise à l'époque. Monsieur Rochon... Mais d'ailleurs, il y a peut-être une leçon dans ça, parce que Monsieur Rochon, un homme que j'ai beaucoup respecté, ses réformes, on voit mieux. À l'époque, là, elles étaient très critiquées. Les gens avaient été très durs avec lui, là, ça m'inclut. Mais quand on les regarde 25 ans après, ces réformes, on se dit, ouais, dans le fond, le virage ambulatoire, les chirurgies d'un jour, s'il n'avait pas fait ça à l'époque, notre système serait encore bien pire aujourd'hui. Là, on pense que là, tout est engorgé, mais ça serait encore bien pire aujourd'hui. Donc, quelqu'un dont l'action, disons, on voit mieux le sens de son action bien après. Mais là, le gouvernement, oui, revenons au gouvernement actuel.
Oui.
Lui, il se donne un grand chantier là, de réforme de la santé, décentralisation. Bon, c'est un beau mot là, dans le discours. Personne n'est contre ça à première vue. Mais ça, pour moi... Je reste avec bien des questions. Reste sceptique là, de qu'est-ce qu'on va pouvoir accomplir. J'ai hâte de voir aussi...
Mais Mario, le problème numéro un, en santé comme dans tous les autres secteurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre.
Ouais.
On n'a pas beaucoup de solutions encore, là, sinon dire on va accélérer les formations.
Faut recruter, faut s'occuper mieux. Là-dessus, il y a déjà des initiatives qui étaient en cours avant le discours d'aujourd'hui. M. Legault a redit notre but, c'est d'enlever le temps supplémentaire obligatoire, donc de prendre soin des ressources humaines qu'on a. Maintenant, il y a cette pointe au docteur, là, cette pointe au médecin omnipraticien. Moi, j'avais pas vu venir. Et là, j'ai très hâte de voir quelle va être la réaction des médecins omnipraticiens. Il faut comprendre, Pierre, que la prise en charge, là, tout le monde veut avoir son médecin de famille, la prise en charge des patients par les médecins de famille, ça progressait là, depuis les libéraux de Philippe Couillard, ça progressait à l'arrivée de la CAQ. Et là, avec la pandémie, bon, il y a peut-être des raisons, mais ça a arrêté de progresser, même, je pense qu'on est reparti dans la mauvaise direction. Des médecins prennent leur retraite, laissent des patients pas de médecins. Et je pense que M. Legault est pas du tout satisfait. Là. Et les discussions tournent à vide un peu. Et dans son discours, sincèrement, c'est pas loin des menaces. Là. Il a dit notre premier choix comme gouvernement, c'est toujours d'arriver par entente à nos résultats. Mais il a dit, en gros, si on n'a pas d'entente, on va prendre des grands moyens, on va prendre les moyens forts. Et donc ça, est-ce qu'on prépare un autre affrontement avec les médecins la veille de l'élection? Ça faisait 2-3 ans. Il y en a eu des affrontements avec les médecins là, sous Gaétan Barrette, à l'arrivée de François Legault la première année. Là, c'était calmé depuis 2 ans. Mais est-ce qu'on se prépare à de nouveaux affrontements avec les médecins? Ça, c'est un sujet qui n'était pas dans le paysage, qui n'était pas dans le firmament jusqu'à ce matin. Et là, qui vient d'apparaître. Ouais. J'ai bien hâte de voir comment les médecins et les praticiens vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont y voir une menace ou est-ce qu'au contraire, ils vont se montrer prêts à collaborer pour prendre en charge plus de patients, pour que plus de patients aient un médecin de famille.
Mario, merci. On vous écoute dès 10h demain sur la CN. Au revoir.
Vincent, on termine l'émission avec, je sais pas si on doit parler d'une saga ou du théâtre d'été, là, mais il y a encore un changement pour ce qui est du fameux troisième voie à Montréal. Il y a encore un changement.
Oui, parce que Marc-Antoine Desjardins, le chef du Parti Ralliement pour Montréal, se retire de la candidature de la mairie d'Outremont. On se souvient qu'il y a 3 semaines, on avait annoncé qu'il s'unissait à Mouvement Montréal, le parti de Ballarama Holness. Et
une union, je l'avais interviewé, puis c'est une union qui m'avait laissé perplexe, parce que lui était pour la défense du français.
Exact.
Holness était pour Montréal bilingue. Et là, leur entente pour unir leurs forces, c'était de dire, ben là, Holness, il met de côté son affaire de Montréal bilingue, mais on va faire un référendum là-dessus.
Ouais, une consultation publique.
Puis là, moi et lui, on va être chacun dans notre camp. C'est des gens du même parti, mais qui feraient un référendum où ils seraient dans des camps opposés.
Oui, ils vont argumenter. Donc, dans un débat, mettons, en radio, on mettrait les deux du même parti.
Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Mais bon, là, entre-temps, Ballarama Holness, je pense, s'est rendu compte que son vote était anglophone et que son vote était extrêmement déçu. Et il a redit, moi, je vais faire de Montréal un Montréal bilingue.
Et ça, ça n'a pas passé. De sorte que c'est d'ailleurs, il fait référence dans ce qui a été envoyé là aux médias. Il dit par la présente et par principe, je me retire de la course à la mairie d'Outremont, me dissociant totalement du Parti Mouvement Montréal, de son chef et de ses propos tenus le mardi 12 octobre 2021. Il dit, je ferai aucun commentaire d'ici la fin de la campagne municipale. Alors.
C'est du théâtre d'été, là, pour vrai. Depuis le début, là.
Et du côté de M. Holness, on dit que ce départ-là n'aura aucun impact, puis qu'on poursuit la campagne, comme si de rien n'était.
OK. Tu fais une fusion il y a 3 semaines, puis il part en pleine campagne, il y a 2 semaines du vote.
Dit, on n'en parle plus, on oublie ça.
Ça n'a pas existé.
On ne reviendra pas. Non, faut pas parler du passé, Mario. Faut regarder vers l'avenir.
Tu penses bien. Bon, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.
Cube Radio.